Jules Verne, Le Sphinx des glaces. Première partie. Chapitre 12. Entre le cercle polaire et la banquise. Depuis que Lord Brain a dépassé cette courbe imaginaire, tracée à 23 degrés et demi du pôle, il semble qu'elle soit entrée en une contrée nouvelle, cette contrée de la désolation et du silence, comme le dit Edgar Poe. Cette magique prison de splendeur et de gloire, dans laquelle le chantre d'Eleanora souhaite d'être enfermé comme pour l'éternité, cet immense océan de lumière ineffable. À mon avis, pour demeurer dans des hypothèses moins fantaisistes, cette région de l'Antarctique, d'une superficialité qui dépasse 500 millions de milles carrés, est restée ce qu'était notre sphéroïde pendant la période glaciaire. Durant l'été, l'Antarctique, on le sait, jouit du jour perpétuel, dû au rayon que l'astre radieux, dans sa spirale ascendante, projette au-dessus de son horizon. Puis, dès qu'il a disparu, c'est la longue nuit qui commence, nuit souvent illuminée par les irradiations des aurores polaires. C'était donc en pleine saison de lumière que notre goélette allait parcourir ces redoutables régions. La clarté permanente ne lui ferait pas défaut jusqu'au gisement de l'île Tsalal, où nous ne doutions pas de retrouver les hommes de la Jane. Un esprit plus imaginatif eût sans doute éprouvé de singulières surexcitations lors des premières heures passées sur cette limite de la nouvelle zone. Des visions, des cauchemars, des hallucinations d'hypnobates. Il se sentit comme transporté au milieu du surnaturel. À l'approche de ces contrées antarctiques, il se serait demandé ce que cachait le voile nébuleux qui en dérobait la plus grande étendue. Y découvrira-t-il des éléments nouveaux dans le champ des trois règnes minéral, végétal, animal, des êtres d'une humanité spéciale, tels qu'affirment les avoir vus Arthur Pym? Que lui offrirait ce théâtre de météores, sur lesquels est encore baissé le rideau des brumes? Sous l'intense oppression de ses rêves, lorsqu'il songerait au retour, ne perdrait-il pas tout espoir? N'entendrait-il pas, à travers les stances du plus étrange des poèmes, le corbeau du poète lui criait de sa voix croassante « Nevermore, jamais plus, jamais plus. » Il est vrai, cet état mental n'était pas le mien. Et quoique je fusse très surexcité depuis quelque temps, je parvenais à me maintenir dans les limites du réel. Je ne formais plus qu'un seul vœu. C'était que la mer et le vent restassent aussi propices au-delà qu'en deçà du cercle antarctique. En ce qui concerne le capitaine Len Guy, le lieutenant, les anciens matelots de l'équipage, une évidente satisfaction se peignit sur leurs traits rudes, leurs figures bronzées par le hâl, lorsqu'ils apprirent que le 70e parallèle venait d'être franchi par la goélette. Le lendemain, d'un ton guilleret, la face épanouie, Hurly Gurly m'accosta sur le pont. « Hé hé, monsieur Jeorling, » s'exclama-t-il, « le voilà derrière nous, le fameux cercle. » « Pas assez, Bosman, pas assez. »«
Ça viendra, ça viendra. Mais j'ai un désappointement. »«
Lequel ?»« C'est que nous ne fassions pas ce qui se fait à bord des navires au passage de la ligne. »«
Vous le regrettez ?» demandai-je.
« Sans doute. Et Lord Brain aurait pu s'accorder la cérémonie d'un baptême austral. »«
D'un baptême ? Et qui auriez-vous baptisé, Bosman ? Puisque nos hommes, tout comme vous, ont déjà navigué au-delà de ce parallèle.
Nous,
oui.
Vous non, monsieur Jeorling. Et pourquoi, s'il vous plaît, cette cérémonie ne serait-elle pas faite en votre honneur?
Il est vrai, Bosman, c'est la première fois au cours de mes voyages que je me serais élevé si haut en latitude.
Ce qui eût mérité un baptême, monsieur Jeorling.
Oh, sans grand fracas, sans tambour ni trompette, et sans faire intervenir le père antarctique avec sa mascarade habituelle. Si vous vouliez me permettre de vous bénir...
Soit, Hurly Gurly, répondis-je en portant la main à la poche. Bénissez et baptisez à votre aise. Voici une piastre pour boire à ma santé au plus prochain cabaret.
Alors ce ne sera que sur l'îlot Bennett, ou sur l'île Tsalal, s'il y a toutefois des auberges dans ces îles sauvages, et s'il s'est trouvé des Atkins pour s'y établir.
Dites-moi, Bosman, j'en reviens toujours à Hunt. Paraît-il aussi satisfait que les anciens matelots de Lord Brain d'avoir dépassé le cercle polaire ?
Le sait-on, me répondit Hurly Gurly, Il navigue toujours à sec de toile, celui-là, et on n'en peut rien tirer d'un bord ou de l'autre. Mais comme je vous l'ai dit, s'il n'a pas déjà tâté des glaces et de la banquise, qui vous le donne à penser?
Tout et rien, monsieur Jarling. Ces choses-là se sentent.
Hunt est un vieux loup de mer, qui a traîné son sac dans tous les coins du monde. L'opinion du bossman était la mienne. Et par je ne sais quel pressentiment, je ne cessais d'observer Hunt, qui occupait très particulièrement ma pensée. Pendant les premiers jours de décembre, du 1er au 4, à la suite de quelques accalmies, le vent montra une certaine tendance à aller le nord-ouest. Or, il en est du nord de ces hautes régions, comme du sud de l'hémisphère boréal. Rien de bon à attendre. Des mauvais temps, voilà le plus ordinairement ce qu'on y attrape, sous forme de rafales et de bourrasques. Cependant, il n'y aurait pas lieu de trop se plaindre, si le vent ne retombait pas jusqu'au sud-ouest. En ce dernier cas, la goélette aurait été rejetée hors de sa route, ou du moins, elle eût dû lutter pour s'y maintenir. Et mieux valait, en définitive, ne point s'écarter du méridien suivi depuis notre départ des New South Orleans. Cette modification présumable de l'état atmosphérique ne laissait pas de causer une inquiétude au capitaine Lenghi. En outre, la vitesse de l'Holbrane subit une sensible diminution, car la brise commença à mollir pendant la journée du 4, et même au milieu de la nuit du 4 au 5, elle refusa. Le matin, les voiles pendaient, inertes et dégonflées, le long des mâts, ou battaient d'un bord à l'autre. Bien qu'aucun souffle n'arrivât jusqu'à nous, et que la surface de l'océan fût sans rides, les longues oscillations de la houle, qui venait de l'ouest, imprimaient de rudes balancements à la goélette. La mer sent quelque chose, me dit le capitaine Lenghi, et il doit y avoir du gros temps de ce côté, ajouta-t-il en étendant la main dans la direction du couchant. L'horizon est brumeux, en effet, répondis-je. Peut-être que le soleil vers midi, il n'a plus grande force à cette latitude, même en été, monsieur Jarling. Jem ? Le lieutenant s'approcha. Que penses-tu du ciel ?
Je ne suis pas rassuré. Aussi faut-il être prêt à tout, capitaine. Je vais amener les voiles hautes, rentrer le grand foc et parer le tourmentin. Il est possible que l'horizon se dégage dans l'après-midi. Si le coup de chien tombe à bord, nous serons en mesure de le recevoir.
Ce qui est essentiel, Jem, c'est de conserver notre direction en longitude. Autant que faire se pourra, capitaine, car nous sommes en bonne route.
Est-ce que la vigie n'a pas signalé les premières glaces en dérive ? Demandai-je.
Oui, répondit le capitaine Lenghi. Et dans un abordage avec les icebergs, le dommage ne serait pas pour eux. Si donc la prudence exige que l'on s'écarte à l'est ou à l'ouest, nous nous y résignerons, mais en cas de force majeure seulement. La vigie n'avait point fait erreur. Dans l'après-midi, on vit des masses se déplacer avec lenteur au sud, quelques îles de glace qui n'étaient encore considérables ni par leur étendue ni par leur hauteur. Par exemple, en assez grande quantité, surnageaient des débris d'icefields. C'était ce que les Anglais appellent des packs, pièces longues de 300 à 400 pieds, dont les bords se touchent, des palches, quand elles ont la forme circulaire, des streams, quand elles sont de forme allongée. Ces débris, faciles à éviter, ne pouvaient gêner la navigation de l'Holbrane. Il est vrai, si le vent lui avait permis de conserver sa direction jusqu'alors, elle n'allait guère de l'avant, à cette heure, et faute de vitesse, ne gouvernait pas sans peine. Et ce qu'il y avait de plus désagréable, c'est qu'une mer creuse et dure nous affligeait de contre-coups insupportables. Vers 2 heures, de grands courants atmosphériques se précipitèrent en tourbillon, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Le vent soufflait de toutes les aires du compas. La goélette fut horriblement secouée, et le bossman dut faire saisir sur le pont les objets susceptibles de se déralanguer au roulis ou au tangage. Vers 3 heures, des rafales d'une force extraordinaire se déchaînèrent décidément à l'ouest-nord-ouest. Le lieutenant mit au baril la brigantine, la misaine goélette et la trinquette. Il espérait ainsi se maintenir contre la bourrasque et ne pas être rejeté à l'est, en dehors de l'itinéraire de Weddell. Il est vrai, les drifts ou glaces flottantes tendaient à se masser de ce côté, et rien de dangereux pour un navire
comme de s'engager à travers ce labyrinthe mouvant. Sous les coups de l'ouragan, accompagné de grosses houles, la goélette donnait parfois une bande excessive. Heureusement, sa cargaison ne pouvait se déplacer, d'arrimage ayant été fait avec une parfaite entente des éventualités nautiques. Nous n'avions point à redouter le sort du grand pouce, ce chavirement dû à la négligence qui avait amené sa perte. On n'a pas oublié que ce brick s'était retourné quille en l'air et qu'Arthur Pym et Dirk Peters restèrent plusieurs jours accrochés à sa coque. Du reste, les pompes ne donnèrent pas une goutte d'eau. Aucune des coutures du bordé et du pont ne s'était ouverte, grâce aux réparations qui avaient été soigneusement faites pendant notre relâche aux Falklands. Ce que durerait cette tempête, le meilleur ou otherwise, le plus habile pronostiqueur, n'aurait pu le dire. 24 heures, 2 jours, 3 jours de mauvais temps, on ne sait jamais ce que vous réservent ces mers australes. Une heure après que la bourrasque fut tombée à bord, les grains se succédèrent, presque sans interruption, avec pluie, grenaces et neige, ou plutôt averses neigeuses. Cela tenait à ce que la température avait notablement baissé. Le thermomètre ne marquait plus que 36 degrés Fahrenheit, 2,22 degrés centigrades sur zéro. Et la colonne barométrique, 26 pouces 8 lignes, 721 mm. Il était 10 heures du soir. Force m'est d'employer ce mot, bien que le soleil se maintînt toujours au-dessus de l'horizon. En effet, il s'en fallait d'une quinzaine de jours qu'il n'atteignît le point culminant de son orbite, et à 23 degrés du pôle, il ne cessait de lancer à la surface de l'Antarctique ses pâles et obliques rayons. À 10h35 se produisit un redoublement de la bourrasque. Je ne pus me décider à regagner ma cabine, et je m'abritai derrière le rouf. Le capitaine Lenghi et le lieutenant discutaient à quelques pas de moi. Au milieu de ce fracas des éléments, c'est à peine s'ils devaient s'entendre, mais entre marins, on se comprend rien qu'aux gestes. Il était visible alors que la goélette dérivait du côté des glaces vers le sud-est et qu'elle ne tarderait pas à les rencontrer, puisque ses masses marchaient moins vite qu'elle. Double malchance qui nous repoussait hors de notre route et nous menaçait de quelques redoutables collisions. Le roulis était maintenant si dur qu'il y avait lieu de craindre pour les mâts, dont la pointe décrivait des arcs d'une amplitude effrayante. Pendant les grains, on aurait pu se figurer que l'Holbrane était coupé en deux. De l'avant à l'arrière, impossible de se voir. Au large, quelques vagues éclaircies laissaient apparaître une mer démontée, qui se brisait avec rage sur l'assort des icebergs, comme sur les roches d'un littoral, et les couvrait d'embrun pulvérisé par le vent. Le nombre des blocs errants s'étant accru, cela donnait à espérer que cette tempête hâterait la débâcle et rendrait plus accessibles les abords de la banquise. Toutefois, il importait de tenir tête au vent. De là nécessité de se mettre à la cape. La goélette fatiguait horriblement, prise par le travers des lames, piquant dans leurs profonds entre-deux, et ne se relevant pas sans subir de violentes secousses. Fuir, il n'y fallait point songer. Car sous cette allure, un bâtiment s'expose au très grave péril d'embarquer des paquets de mer par son couronnement. Tout d'abord, en fait de première manœuvre, il s'agissait de venir au plus près. Puis, la cape prise sous le hunier au baril, le petit foc à l'avant, le tourmentin à l'arrière, l'Holbrane se trouverait dans des conditions favorables pour résister à la bourrasque et à la dérive, quitte à diminuer encore cette voilure si le mauvais temps empirait. Le matelot drape vint se poster à la barre. Le capitaine Lenghi, près de lui, veillait aux embardées. À l'avant, l'équipage se tint prêt à exécuter les ordres de James West, tandis que 6 hommes, dirigés par le bossman, s'occupaient d'installer un tourmentin à la place de la brigantine. Ce tourmentin est un morceau triangulaire de forte toile, taillé comme un phoque, qui se hisse au capelage du bas-mât, s'amure au pied et se borde à l'arrière. Pour prendre les ris du hunier, il fallait grimper aux barres du mât de misaine, et 4 hommes y devaient suffire. Le premier qui s'élança sur les enfléchures fut Hunt. Le deuxième fut Martin Holt, notre maître voilier. Le matelot Burry et l'une des recrues les suivirent aussitôt. Jamais je n'aurais cru qu'un homme pût déployer autant d'agilité et d'adresse que le fit Hunt. c'est à peine si ses mains et ses pieds saisissaient les enfléchures. Arrivé à la hauteur des barres, il s'élongea sur les marchepieds jusqu'à l'un des bouts de la vergue, afin de larguer les rabans du hunier. Martin Holt se porta à l'extrémité opposée, tandis que les deux autres hommes restaient au milieu. Dès que la voile serait amenée, il n'y aurait plus qu'à la réduire aux barres. Puis, après que Hunt, Martin Holt et les matelots seraient redescendus, on les targuerait d'en bas. Le capitaine Lenghi et le lieutenant savaient que, sous cette voilure, l'Holbrain tenait convenablement la cape. Tandis que Hunt et les autres travaillaient, le bossman avait paré le tourmentin et attendait du lieutenant l'ordre de le hisser à bloc. La bourrasque se déchaînait alors avec une incomparable furie. Haubans et galobans, tendus à se rompre, vibraient comme des cordes métalliques. C'était à se demander si les voiles, même diminuées, ne seraient pas déchirées en mille pièces. Soudain, un effroyable coup de roulis chavira tout sur le pont. Quelques barils, cassant leur saisine, roulèrent jusqu'au bastingage. La goélette donna une bande si prononcée sur tribord que la mer entra par les dalots. Renversé du coup contre le rouf, je fus quelques instants sans pouvoir me relever. Telle avait été l'inclinaison de la goélette que le bout de la vergue du hunier s'était plongé de 3 à 4 pieds dans la crête d'une lame. Lorsque la vergue sortit de l'eau, Martin Holt, qui s'était achevalé à l'extrémité pour terminer son travail, avait disparu. Un cri se fit entendre, le cri du maître voilier, entraîné par la houle et dont les bras s'agitaient désespérément au milieu des blancheurs de l'écume. Les matelots se précipitèrent à tribord et lancèrent, qui un cordage, qui un baril, qui un espar, n'importe quel objet susceptible de flotter et auquel pourrait s'accrocher Martin Holt. Au moment où j'empoignais un taquet afin de me maintenir, j'entrevis une masse qui fendait l'air et disparut dans le déferlement des lames. Était-ce un second accident ? Non, c'était un acte volontaire, un acte de dévouement. Ayant fini d'amarrer la dernière garcette de riz, Hunt, après s'être paumonné le long de la vergue, venait de se jeter au secours du maître voilier. « Deux hommes à la mer » cria-t-on du bord. « Oui, deux. L'un pour sauver l'autre. Et n'allaient-ils pas périr ensemble ?» Jem West courut à la barre et d'un tour de roue fit lofer la goélette d'un quart, tout ce qu'elle pouvait donner, sans dépasser le lit du vent. Puis, son foc traversé, son tourmentin bordé à plat, elle resta à peu près immobile. D'abord, à la surface écumante des eaux, on aperçut Martin Holt et Hunt, dont les têtes émergeaient. Hunt nageait d'un bras rapide, piquant à travers les lames, et se rapprochait du maître voilier. Celui-ci, éloigné déjà d'une encablure, paraissait et disparaissait tour à tour, un point noirâtre, difficile à distinguer au milieu des rafales. Après avoir jeté espars et barils, l'équipage attendait, ayant fait tout ce qui était à faire. Quant à lancer une embarcation, au milieu de cette houle furieuse qui couvrait le gaillard d'avant, y pouvait-on songer ? Ou qu'elle eût chaviré, ou qu'elle se fût brisée contre les flancs de la goélette. « Ils sont perdus tous deux, » murmura le capitaine Lenghi. Puis, au lieutenant, « Jem, le canot » cria-t-il. « Si vous donnez l'ordre de le mettre à la mer, » répondit le lieutenant, « je m'y embarquerai le premier, quoique ce soit risquer sa vie. Mais il me faut l'ordre. » Il y eut quelques minutes d'inexprimables angoisses pour les témoins de cette scène. On ne songeait plus à la situation de l'Holbrain, si compromise qu'elle fût. Bientôt une clameur éclata, lorsque Hunt fut aperçu une dernière fois entre deux lames. Il s'enfonça encore, puis, comme si son pied eût rencontré un point d'appui solide, on le vit s'élancer avec une surhumaine vigueur vers Martin Holt, ou plutôt vers l'endroit où le malheureux venait de s'engloutir. Cependant, en gagnant un peu au plus près, dès que Jem West eut fait mollir les écoutes du petit phoque et du tourmentin, la goélette s'était rapprochée d'une demi-encablure. C'est alors que de nouveaux cris dominèrent le bruit des éléments déchaînés. « Hurrah ! Hurrah ! » poussa tout l'équipage. De son bras gauche, Hunt soutenait Martin Holt, incapable d'aucun mouvement, ballotté comme une épave. De l'autre, il nageait vigoureusement et gagnait vers la goélette. « Serre le vent ! Serre le vent !» commanda Jem West au timonier. La barre mise dessous, les voiles ralinguèrent avec des détonations d'armes à feu. L'Olbrain bondit sous les lames, semblable au cheval qui se cabre lorsque le mort le retient à lui briser la bouche. Livré aux plus terribles secousses, de roulis et de tangages, on eût dit, pour continuer la comparaison dont je me suis servi, qu'elle piaffait sur place. Une terrible minute s'écoula. C'est à peine si l'on pouvait distinguer, au milieu des eaux tourbillonnantes, ces deux hommes, dont l'un traînait l'autre. Enfin Hunt rejoignit la goélette et saisit une des amarres qui pendait du bord. « Arrive, arrive !» s'écria le lieutenant en faisant un geste au matelot du gouvernail. La goélette évolua juste de ce qu'il fallait pour que le hunier, le petit phoque et le tourmentin pussent porter, et elle prit l'allure de la cape courante. En un tour de main, Hunt et Martin Holt avaient été hissés sur le pont, l'un déposé au pied du mât de misaine, l'autre prêt à donner la main à la manœuvre. Le maître voilier reçut les soins que nécessitait son état. La respiration lui revint peu à peu, après un commencement d'asphyxie. Quelques frottements énergiques achevèrent de le rappeler à lui, et ses yeux s'ouvrirent. « Martin Holt, lui dit le capitaine Langy, qui s'était penché sur le maître voilier. « Te voilà revenu de loin. »«
Oui, oui, capitaine, » répondit Martin en cherchant du regard.
« Mais qui est venu à moi ?»«
C'est Hunt, » s'écria le bossman. « Hunt qui a risqué sa vie pour te tirer de là. »
Martin Holt se releva à demi, s'appuya sur le coude et se tourna du côté de Hunt. Comme celui-ci se tenait en arrière, Hurliguerly vint le pousser vers Martin Holt, dont les yeux exprimaient la plus vive reconnaissance.
« Hunt, » dit-il, « tu m'as sauvé. Sans toi, j'étais perdu. Je te remercie. »
Hunt ne répondit pas.
« Eh bien, Hunt, » reprit le capitaine Langy, « est-ce que tu n'entends pas ?»
Hunt ne semblait point avoir entendu.
« Hunt, » redit Martin Holt, « approche. Je te remercie. Je voudrais te serrer la main. »
Et il lui tendit la sienne. Hunt recula de quelques pas, secouant la tête, dans l'attitude d'un homme qui n'a pas besoin de tant de compliments pour une chose si simple. Puis, se dirigeant vers l'avant, il s'occupa de remplacer une des écoutes du petit phoque qui venait de casser à la suite d'un tel coup de mer que la goélette en avait été ébranlée de la quille à la pomme des mâts.
Décidément, c'est un héros de dévouement et de courage, ce Hunt. Décidément aussi, c'est un être fermé à toutes les impressions. Et ce ne fut pas encore ce jour-là que le bossman connut la couleur de ses paroles. Il n'y eut aucun répit dans la violence de cette tempête. Et à plusieurs reprises, elle nous donna de sérieuses inquiétudes. Au milieu des fureurs dans la tourmente, on put 100 fois craindre que, malgré sa voilure réduite, la mâture ne vînt à bas. Oui, 100 fois. Bien que Hunt tint la barre d'une main habile et vigoureuse, la goélette, emportée dans des embardées inévitables, donna la bande et fut sur le point d'engager. Il fallut même amener le hunier et se borner au tourmentin et au petit phoque pour garder la cape.
« Jem, » dit le capitaine Langy. Il était alors 5 heures du matin. « S'il est nécessaire de fuir, nous fuirons, capitaine, mais c'est risqué d'être mangé par la mer. » En effet, rien de plus dangereux que cette allure du vent arrière, quand on ne peut plus devancer les lames et on ne la prend que lorsqu'il est impossible de garder la cape. D'ailleurs, à courir vers l'est, l'Olbrain se fut éloigné de sa route, au milieu du dédale des glaces accumulées dans cette direction. 3 jours durant, 6, 7 et 8 décembre, la tempête se déchaîna sur ces parages avec accompagnement de rafales neigeuses, qui provoquèrent un sensible abaissement de la température. Cependant, la cape put être maintenue, après que le petit phoque, déchiré dans une rafale, eut été remplacé par un autre de toile plus résistante. Inutile de dire que le capitaine Langy se montra un vrai marin, que Jem West eut l'œil à tout, que l'équipage les seconda résolument, que Hunt fut toujours le premier à la besogne lorsqu'il y eut manœuvre à faire ou danger à courir.
En vérité, ce qu'était cet homme, on ne saurait en donner une idée. Quelle différence entre lui et la plupart des matelots recrutés aux Falklands, surtout le Sailing Master Ian. De ceux-ci, il était bien difficile d'obtenir ce qu'on avait le droit d'attendre et d'exiger. Sans doute ils obéissaient, car bon gré mal gré, il faut obéir à un officier tel que Jem West. Mais par derrière, que de plaintes, que de récriminations. Cela, je le craignais, ne présageait rien de bon dans l'avenir. Il va sans dire que Martin Holt n'avait pas tardé à reprendre ses occupations et qu'il n'y boudait point. Très attendu à son métier, il était le seul qui, pour l'adresse et le zèle, pouvait rivaliser avec Hunt. « Eh bien, Holt, lui demandai-je un jour qu'il se trouvait en conversation avec le bossman, en quels termes êtes-vous maintenant avec ce diable de Hunt ?»« Depuis le sauvetage, s'est-il montré un peu plus communicatif ?»« Non, monsieur Jarling, répondit le maître voilier, et il semble même qu'il cherche à m'éviter. »« À vous éviter ? » répliquai-je. « Comme il le faisait auparavant, du reste. Voilà qui est singulier. »« Et qui est vrai, » ajouta Hurliguerly. « J'en ai fait la remarque plus d'une fois. »« Alors il vous fuit comme les autres ?»« Moi, plus que les autres. »« À quoi cela tient-il »« Je ne sais, monsieur Jarling. » »« N'empêche, Holt, que tu lui dois une fameuse chandelle, » déclara le bossman. « Mais n'essaye pas d'en allumer une en son honneur. Je le connais, il soufflerait dessus. » Je fus surpris de ce que je venais d'apprendre. Toutefois, en y prêtant attention, je pus m'assurer, en effet, que Hunt refusait toutes les occasions d'être en contact avec notre maître voilier. Ne croyait-il donc pas avoir droit à sa reconnaissance, bien que celui-ci lui dût la vie? Assurément, la conduite de cet homme était au moins bizarre. Dans l'après-midi du 6 au 9, le vent indiqua une certaine tendance à remonter vers l'est, ce qui devait rendre le temps plus maniable. L'Holbrain, si cette circonstance se produisait, pourrait donc regagner ce qu'elle avait perdu par la dérive et reprendre son itinéraire sur le 43e méridien. Cependant, quoique la mer restât dure, la surface de voilure put être augmentée sans risque vers 2 heures du matin. Aussi, sous la misaine goélette et la brigantine à deux ris, la trinquette et le petit phoque, l'Holbrain, bâbord à mur, se rapprocha-t-elle de la route dont l'avait écartée cette longue tourmente. En cette portion de la mer Antarctique, les glaces dérivaient en plus grand nombre, et il y avait lieu de penser que la tempête, hâtant la débâcle, avait peut-être rompu vers l'est les barrières de la banquise.